Bien investir avec Alison, une émission présentée par Alison Jenglin sur Radio Immo.
Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle émission de Bien investir avec Alison. Alors aujourd'hui, on va parler crédit IMO avec un expert en la matière. On va plus précisément parler de comment obtenir un crédit lorsqu'on est un professionnel de l'immobilier. Pour ça, je reçois aujourd'hui Fabrice Amiel. Fabrice qui est cofondateur et associé chez Carte Financement, courtier en financement pour les entreprises et les professionnels de l'immobilier. Bonjour Fabrice.
Bonjour Alison, merci de me recevoir.
Eh ben avec plaisir, je suis ravie de t'avoir sur notre plateau sur Radio Immo aujourd'hui. On a pas mal de questions pour toi, nos auditeurs. Lorsqu'on a expliqué le sujet de la prochaine émission, on a eu des centaines de questions, dont plusieurs qui sont revenues plusieurs fois. Donc on va en parler tout de suite. Donc lorsqu'on dit courtier en financement pour les entreprises et les professionnels, ça veut dire quoi exactement ?
Mais si tu veux, notre métier, c'est d'accompagner les chefs d'entreprise dans leurs besoins de financement. Alors, contrairement à des grands réseaux de courtage, nous intervenons uniquement auprès des professionnels de l'immobilier. Donc, les professionnels de l'immobilier, ce sont les promoteurs, les aménageurs, les lotisseurs, les marchands de biens. On a une grosse communauté de marchands de biens qui nous sollicitent et les investisseurs. Donc, dans les investisseurs, on retrouve effectivement les personnes morales. Essentiellement, nous n'intervenons pas sur les personnes physiques, donc à travers des sociétés civiles comme des SCI ou des sociétés commerciales comme des SAS ou des SARL.
Donc, d'accord.
On a vraiment cette spécificité d'intervenir uniquement pour les professionnels de l'immobilier.
Donc, que des professionnels. Et si, par exemple, il y a un particulier qui ouvre pour la première fois sa société par exemple de marchand de biens ou alors qui souhaite devenir promoteur, qui ouvre une société dans ce sens-là, là, tu peux les aider à obtenir un financement, c'est bien ça ?
Effectivement, puisque c'est très compliqué en général hein, pour obtenir un financement quand on est un nouveau professionnel de l'immobilier, qu'on soit promoteur ou marchand de biens.
Je confirme.
Voilà. Parce que les banques ont besoin d'avoir ce qu'on appelle un track record, c'est-à-dire qu'elles ont besoin de s'assurer que le professionnel ou que le néo-professionnel a la capacité de mener un projet de marchand ou de promoteur dans les meilleures conditions. Donc, c'est pour ça que l'accès à ces crédits-là sont devenus et ont toujours été d'ailleurs très compliqués à obtenir. Mais compte tenu du réseau bancaire qu'on a développé depuis maintenant plus de 15 ans avec Carte Financement, on a malgré tout des solutions à proposer à nos clients qui souhaitent démarrer une activité de promoteur ou de marchand. Oui, tout à fait.
Donc, tu les épaules en fait dans leur début, dans leur nouvelle société en fait de professionnels de l'immobilier.
Exactement. On les accompagne, on les conseille pour que finalement, lorsqu'on présente le dossier à nos partenaires bancaires, on ait un cadre qui est, suffisamment bien préparé et en tout état de cause avec les exigences des banques, parce que quand on est professionnel de l'immobilier, il y a des us et des coutumes à avoir, il y a des modes de fonctionnement que les banques exigent pour
qu'on ne connaît pas forcément en tant que particulier finalement.
Exactement, qu'on ne connaît pas forcément quand on est particulier, et alors que quand on est professionnel, il faut effectivement maîtriser tous ces sujets-là pour au final que l'opération se passe de la meilleure façon possible, avec le moins de risques possible, parce que malgré tout, le professionnel va prendre des risques liés à l'opération et il faut étudier et s'assurer que tous les fondamentaux sont respectés.
Et au final, en fait, tu fais en sorte que les deux parties soient rassurées, puisque tu connais en général, il y a déjà une relation faite avec la banque et du coup, avec le client, ça le rassure aussi de se dire « je suis accompagné par un professionnel qui sait de quoi il parle ».
Exactement, parce qu'il y a des pièges à éviter et compte tenu des montants qui sont en jeu dans l'immobilier, c'est tout de suite des sommes importantes. Il faut éviter les pièges et prendre le moins de risques possible dans les opérations.
Et ce qu'il ne faut pas négliger aussi, je parle surtout à nos auditeurs qui sont jusqu'à maintenant, qui ont peut-être acheté leur résidence principale ou peut-être un bien en locatif, mais voilà, qui n'ont pas encore, qui ne sont pas vraiment lancés par exemple dans du marchand de biens et qui souhaitent le faire. Lorsqu'on se lance dans l'ouverture d'une société de marchand de biens et qu'on démarche les banques pour avoir un financement, c'est complètement différent. Et pour la petite anecdote, si je vous raconte ça, c'est parce que donc, Fabrice m'a également aidé personnellement pour que dans la création en fait, de ma première société de marchand de biens et où l'obtention du crédit a été compliqué malgré des dossiers qui étaient finalement bons en soi. Mais en fait, aujourd'hui, il faut que la banque vous fasse confiance parce que... Il vous donne quand même beaucoup d'argent. En marchand de biens, il y a une grosse partie qui est liée aux travaux. Donc, en fait, si vous ne savez pas bien gérer les travaux, la banque peut perdre en fait, ce qu'elle vous a avancé. D'où l'intérêt de faire appel à des personnes comme Fabrice lorsqu'on veut se lancer vraiment en étant un professionnel de l'immobilier.
Exactement. Alors, on peut, quand on est nouveau sur ce métier de promoteur ou de marchand de biens, en particulier sur le marchand de biens, parce que c'est de la rénovation, c'est quand même plus accessible au plus grand nombre, mais on s'adresse à des banquiers, pour le coup, qui ont l'habitude de traiter tous ces dossiers-là, qui sont eux-mêmes des vrais professionnels de la banque pour les professionnels de l'immobilier, qui maîtrisent tous les sujets et toute la chaîne de la rénovation d'un bien immobilier et qui vont être extrêmement attentifs à qui est l'opérateur, c'est-à-dire sa capacité à pouvoir mener l'opération dans les meilleures conditions possibles. Et évidemment, ils vont regarder aussi la qualité de l'opération, c'est-à-dire qu'ils vont s'assurer que l'opération pour laquelle ils sont sollicités sur le financement soit rentable, soit située dans une zone géographique où l'immobilier est fort, etc., etc., etc. Donc, il y a une espèce de checklist qui va être déroulée par le banquier et il faut respecter tous ces points-là pour pouvoir être financé et être accompagné par la banque.
Pour que la banque fasse confiance le plus facilement possible, entre guillemets. Et c'est là, je pense, où ton rôle est essentiel parce que finalement, lorsqu'on est plutôt normalement du côté particulier, qu'on a l'habitude de demander pour un crédit pour sa résidence principale, en fait, les banques vont moins regarder l'emplacement ou ils vont regarder le prix du marché si c'est cohérent, mais ils ne vont pas se dire combien est-ce qu'ils peuvent revendre après parce que souvent, les gens restent des années dans leur résidence principale. Donc, dans tous les cas, ils ne vont pas perdre d'argent dessus, quoi.
Exactement. Une acquisition de résidence principale ou l'acquisition d'un immeuble de rapport, c'est une technique de financement long terme. Donc, le banquier va avoir une analyse long terme de son risque, c'est-à-dire qu'il va regarder la capacité d'endettement de l'emprunteur et la capacité de remboursement par des loyers à percevoir du crédit. Quand sur une opération de marchand de biens ou de promotion, on fait un financement court terme, c'est-à-dire qu'on va faire un financement sur une période beaucoup plus courte, de 2 à 3 ans maximum, c'est-à-dire cette durée qui correspond à l'acquisition et à la rénovation par le biais de travaux pour créer une valeur ajoutée aux produits immobiliers. Donc, c'est vraiment deux approches complètement différentes, effectivement.
Et en termes de, en ce moment, dans la période, on sait, l'année dernière, même l'année d'avant, 2022, depuis le Covid, il y a eu beaucoup de changements dans les crédits immobiliers. On sait que l'année dernière, c'était très tendu pour obtenir un crédit. Qu'est-ce qu'il en est cette année?
Alors, effectivement, 2022-2023, les taux d'intérêt ont augmenté sensiblement. Les banques ont réduit drastiquement la distribution du crédit. Les banques centrales européennes en 2024 et la Fed américaine ont malgré tout annoncé une baisse de taux à prévoir sur le deuxième semestre 2024. Donc, on peut imaginer que les taux d'intérêt bancaires vont également diminuer sur ce deuxième partie d'année. On estime que l'inflation devrait être maîtrisée aux alentours des 3% sur l'année 2024 et 2025. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les taux d'intérêt long terme à 20 ans devraient être à peu près sensiblement du même ordre, donc 3% sur 20 ans. Et pour les opérations donc de financement des professionnels de l'immobilier, on parle de crédit court terme, donc basé sur l'Euribor 3 mois. L'Euribor 3 mois est aux alentours des 3,9% actuellement, auquel il faut ajouter la marge de la banque aux alentours des 3%. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une opération de marchand de biens court terme se finance à hauteur de 7% environ, donc ce qui est beaucoup. Il faut absolument intégrer ces frais financiers dans le montage et la structuration des opérations financières. Et on peut imaginer que ces taux-là vont légèrement baisser sur le deuxième semestre 2024, peut-être aux alentours des 5% en global pour une opération de financement court terme. Donc oui, une tendance baissière des taux.
C'est plutôt positif. On peut se dire que logiquement, positif. On a atteint tellement des sommets il y a quelques mois qu'on se dit que logiquement, c'est censé redescendre à un moment.
C'est censé redescendre. Les banques ont besoin aussi de faire du crédit. Ouais. Elles ont besoin de prêter, que ce soit aux entreprises, aux ménages ou aux professionnels, pour capter de nouveaux clients. Donc, il va falloir qu'elles réouvrent les vannes du crédit pour pouvoir accompagner plus de dossiers qu'elles ne l'ont fait sur les dernières années.
Et dans tous les cas, que ce soit donc là, donc aux alentours des 7% ou peut-être dans les mois à venir, peut-être aux alentours des 5% pour les crédits de marchands de biens, il faut toujours se dire, faut toujours comptabiliser en fait cette partie-là dans le projet, parce que ça peut, si c'est un projet où on n'a pas énormément de marge, en fait, ça peut faire qu'il reste quasiment plus rien. Donc il faut vraiment, aujourd'hui, je pense, et ça a toujours été un discours que j'avais même il y a plusieurs années, mais je pense qu'aujourd'hui, ça prend vraiment tout son sens, c'est que si c'est pour faire un petit appartement en rénovation, mais que on a que quelques dizaines de milliers d'euros de plus-value, finalement, avec les impôts, avec ce que va coûter le crédit, avec tout, en fait, ce qui peut se passer qui n'était pas prévu, et après, il reste rapidement plus grand-chose, en fait.
Exactement. Les frais financiers sont un gros poste du budget d'un professionnel et d'un marchand. Donc effectivement, il faut absolument bien le calibrer et l'intégrer dans le plan de financement et dans le budget. Les exigences de toute façon des prêteurs aujourd'hui sur les marges sont de minimum 20% de marge sur le coût de revient de l'opération. Ça fait quand même une marge de manœuvre qui est suffisamment significative pour faire face aux aléas. Donc 20% de marge sur une opération de marchand, c'est ce qui est préconisé par les banques.
Merci pour cette information, Fabrice. Alors, nous avons reçu donc des questions. Il y en a une justement qui parlait, si je me trompe pas, d'emprunter, voilà, avec un statut de marchand de biens. Donc, on va prendre cette question en premier, comme ça, on continue sur notre sujet. Donc, c'est une question de Marilyn qui nous demande comment emprunter avec un nouveau statut de marchand de biens. La différence entre un investissement locatif ou l'achat d'une RP, donc on en y a répondu plus ou moins, mais est-ce que la plus grosse différence vraiment, ça va être que déjà que le coût, c'est pas du tout le même et que je pense qu'en tant que toi, courtier, tu ne t'adresses pas aux mêmes banques pour ce genre d'opérations.
Exactement. Alors, ce sont les mêmes banques, ce sont les mêmes enseignes bancaires.
Mais ce n'est pas la même.
Qu'on connaît, mais ce n'est pas, n'est pas le banquier d'une agence locale. On s'adresse au département des professionnels de l'immobilier, qui sont des toutes petites structures d'ailleurs au sein des banques. Toutes les banques ont leur département des professionnels de l'immobilier. En général, on retrouve à peu près 2 ou 3 banquiers uniquement qui vont étudier localement toutes les demandes des professionnels de l'immobilier, ce qui fait que évidemment ils vont être extrêmement exigeants sur la qualité des dossiers qui leur sont présentés. C'est la raison pour laquelle on intervient pour nos clients et on monte les dossiers au format des banques, c'est-à-dire selon leurs critères d'exigence. Et les dossiers sont vus et sont tous passés en comité de crédit. Donc, un banquier aujourd'hui qui finance le professionnel de l'immobilier n'a pas de délégation de crédit parce que c'est trop de risques pour la banque. Donc, tous les dossiers sont vus. Donc, il doit vraiment être très, très bien monté et analysé au préalable pour pas se retrouver dans des situations où les banques refuseraient de prêter. Voilà. Et par ailleurs, on parle beaucoup des banques, mais aujourd'hui, il y a des solutions alternatives qui existent. La plus connue et donc est le financement par les plateformes de crowdfunding qui prêtent aussi donc de la même manière que les banques avec une analyse aussi fine que les banquiers mais qui ont une vision un peu plus large du spectre de financement et qui peuvent accompagner les premières opérations de financement d'un professionnel de l'immobilier.
Et donc toi tu fais aussi appel à ce genre de...
Tout à fait.
Ok, donc en fait, ce qui est bien aussi, c'est que tu peux apporter ce qu'un particulier ne connaît pas forcément, finalement. Grâce à carte financement, finalement, peut vraiment déployer en fait tous les professionnels qui peuvent être aptes à financer le projet de ton client.
Exactement, on peut vraiment avoir un large panel de prêteurs, comme on les appelle de manière générale. On a dans nos partenaires un peu plus de 200 partenaires financiers prêteurs. Donc, dans ces 200 partenaires financiers, nous avons évidemment les banques, les plateformes de crowdfunding, mais on a aussi des prêteurs privés, On a des banques étrangères, donc tout ça fait que on a accès à un plus grand nombre, évidemment, de partenaires prêteurs que pourrait avoir un particulier ou un nouveau professionnel qui se lancerait dans cette activité.
Donc, si le dossier a bien été étudié et que le projet du client est vraiment rentable, tu arrives à lui trouver un financement.
On y arrive. Voilà, normalement, c'est ça. On y arrive. Exactement. Exactement.
Donc, on est quand même sur une note positive malgré les crédits qui ont été un peu ralentis, un peu beaucoup même ralentis, les taux qui ont été élevés, mais on reste quand même sur quelque chose qui est intéressant. Et ce qu'il ne faut pas oublier aussi, et ça, je le dis surtout pour les auditeurs, parce que, OK, tout ça, ça peut faire un peu peur. On se dit, ouais, c'est peut-être pas la bonne période en ce moment, c'est compliqué. En plus, il suffit qu'on en parle à gauche, à droite, dans notre famille ou nos amis autour de nous qui disent, ah, moi, j'attends un ou deux ans, c'est pas la bonne période. Sauf que l'immobilier, ça prend quand même de la valeur tout le temps. Donc, en gros, à partir du moment où votre bien... Enfin, même s'il y a un moment de ralentissement ou un moment où ça descend un petit peu, en fait, il faut juste prendre du recul sur la situation, attendre, laisser les mois passer tranquillement et l'immobilier va remonter. C'est l'immobilier, c'est pour moi
l'investissement. C'est une question de cycle.
Pardon ? Oui, voilà, c'est exactement.
C'est une question de cycle.
Il y a des moments où c'est bien d'acheter, il y a des moments où c'est bien de vendre, mais il ne faut pas vendre lorsqu'on est au creux de la vague, quoi.
Oui, tout à fait. Et là, bon, les taux ayant augmenté, effectivement, les prix ont quand même baissé, il faut le reconnaître. Pas partout, mais de manière générale en France, les prix ont baissé. Donc, il y a des opportunités à saisir. Et c'est le bon moment pour rentrer, pour démarrer une activité dans l'immobilier.
Et j'avais une question parce que ça, c'est vraiment une question sur Instagram que j'ai énormément. Il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer dans le marchand de biens. Et lorsque tu démarches une banque pour un nouveau client qui vient d'ouvrir sa société de marchand de biens, de quelle manière, en fait, qu'est-ce que le client peut faire ou qu'est-ce qui peut l'aider en fait pour obtenir le financement si il n'a jamais fait avant ce genre d'opération? Comment faire pour que la banque lui fasse confiance en se disant OK, il sait gérer les travaux, en fait, il sait gérer, il va savoir gérer le projet, quoi.
Alors, on peut avoir différents profils et on a beaucoup de personnes qui ont travaillé dans le bâtiment, par exemple, et qui, eux, savent parfaitement comment réaliser des travaux. Et ce sont des profils qui sont tout à fait bankable, comme on dit. Ouais. Et banquiers aiment bien ces profils-là et ils savent les accompagner parce que la maîtrise de la réalisation des travaux, c'est un élément essentiel dans une opération de rénovation ou de construction.
Donc, plus souvent, ils ont des coûts limités pour les travaux parce que voilà, ils achètent aussi en tant que professionnels. Donc du coup.
Exactement. Ouais. Un autre profil aussi qui est apprécié des banquiers, ce sont les investisseurs long terme et qui se lanceraient dans des opérations de rénovation type marchand. Cela maîtrise les rouages de l'immobilier. Donc,
il le faisait déjà, mais pas en tant que marchand de biens, mais il faisait déjà toutes les étapes, mais sur du plus long terme, mais c'est pareil en fait.
Exactement, ouais. Exactement. Il faut avoir il faut avoir des notions dans l'immobilier, évidemment, parce que ça ne s'apprend. Voilà, c'est un métier quand même.
Mais quelqu'un qui a déjà un pied dedans, ça facilite beaucoup que voilà. C'est une personne qui est comptable, qui n'est jamais trop sortie de son ordinateur et de ses chiffres. C'est plus compliqué que quelqu'un qui est vraiment dans le milieu. OK.
Exactement. Donc, mais voilà, celui qui a des bonnes connaissances, bonnes notions d'immobilier, doit y arriver. Et il y arrive.
Donc, même d'avoir un ou deux biens en locatif ou même d'avoir quasiment construit sa maison soi-même ou quoi, ça, c'est des avantages, en fait, dans l'obtention de crédit.
Exactement. Mmh. Et c'est tous ces aspects-là et tous ces arguments-là qu'il faut mettre en avant, expliquer, détailler, pour être crédible face à un prêteur.
OK. Merci pour ces informations. Donc, nous avons également une question de Mathias de Paris. Et c'est une question qu'on a reçue plusieurs fois parce qu'il y a Claire également qui nous l'a posée, Grégory. Donc, bonjour à vous. Ma résidence principale m'endette à 35%. Est-il possible d'obtenir encore un autre crédit immobilier lorsque les 35% sont atteints?
En théorie, non, puisque les normes HSF encadrent la distribution du crédit et les banques n'ont plus le droit ou n'ont pas le droit de dépasser un taux d'endettement supérieur de 35%. Cependant, le ministère de l'économie qui gère donc la haute autorité a dit que, bon, maintenant, afin de faire repartir les transactions immobilières, les banques ont le droit de déroger à ce taux de 35% à hauteur de 20% des dossiers proposés. Donc,
et sur les 20%, oui. Il me semble qu'il y a 80% de résidence principale.
Et
après, il y a des fois, il y a des... Alors, peut-être moins dans ton cas à toi, mais Mais ça arrive quand même régulièrement qu'un bien qui est censé être locatif passe en résidence principale.
Oui, tout à fait. Alors, il faut être un peu malin aussi, malgré
Voilà.
tout.
C'est ça.
C'est du business, donc même si c'est une résidence principale, il y a des moyens et les banques ont joué de créativité ces derniers temps pour trouver des solutions et contourner de manière intelligente ce taux d'endettement de 35%. Voilà. Il faut vraiment aller voir son banquier, expliquer, être pédagogue. En lui montrant par A plus B que vous allez le rembourser, puisqu'il n'y a que ça qui l'intéresse, c'est d'être remboursé quand on est prêteur.
Et puis je rebondis sur ce que tu dis parce qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte. Souvent, quand je lis des messages ou quoi, je vois, oui, mais la banque veut pas me prêter. Mais en fait, la banque, à la base, elle est aussi de votre côté à vous. C'est que elle veut aussi vous prêter. C'est que des fois, au-dessus, ça coince par rapport aux règles. Mais à la base, le banquier, du moment que voilà, vous avez un dossier qui est solide, et il a envie d'aller dans votre sens. Donc, comme Fabrice, tu le disais, ben, les banques essayent de trouver des moyens pour que leurs clients rentrent dans les clous et pouvoir les financer. C'est
Exactement,
pas, il n'est pas
exactement.
contre vous, il est avec vous.
Et un dossier de crédit, ça se prépare plusieurs mois en amont pour vraiment avoir un projet qui tient la route pour rassurer le banquier.
Et la question que tout le monde se pose, et entre autres aussi Myriam de Tours, combien ça coûte de faire appel à un courtier immobilier? Aujourd'hui, si on veut faire appel à toi, combien ça coûte?
Alors, le métier de courtage et de courtier, c'est un métier qui est réglementé et encadré par la CPR, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Et ce métier-là, est encadré. Tout le monde fonctionne de la même manière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord, le courtier est payé au succès. C'est-à-dire que, nous n'avons pas le droit de réclamer d'honoraires si nous n'arrivons pas à obtenir une solution de financement. Donc, ça veut dire que le courtier est payé au moment du déblocage des fonds par la banque. Il est impossible d'être rémunéré avant et si l'opération ne se fait pas, si l'opération ne se déboucle pas pour une raison X ou Y, peu importe la raison, le courtier n'a pas le droit de réclamer de l'argent à son client.
Donc dans tous les cas, le client
Jusqu'à
ne peut pas perdre
présent,
d'argent, entre guillemets. Il ne peut pas
le
avoir
client ne
donné de
peut pas
l'argent et
perdre
rien avoir
d'argent.
en retour, quoi.
Exactement. Sur les dernières années où les taux étaient très bas et où la concurrence entre les banques était extrêmement féroce, les banques rémunéraient les courtiers pour les dossiers qui étaient apportés par le courtier aux banques. Aujourd'hui, compte tenu de la distribution du crédit, les banques ont décidé de résilier les conventions avec les courtiers. Donc, les banques ne rémunèrent plus les courtiers. Donc, c'est vraiment le client qui règle les honoraires pour le service et l'accompagnement rendu.
D'accord, donc au final, les clients ont tout intérêt, voilà, il y a pas, ils peuvent rien perdre dans l'histoire. Et en plus, j'ai entendu dire, tu vas me confirmer si c'est vrai ou pas, que du coup, les courtiers souvent ont des accords, si on peut dire, avec les banques, mais peuvent en tout cas obtenir des meilleurs taux que lorsque le particulier va lui-même démarcher la banque. Est-ce que c'est vrai ou non?
Oui, l'effet volume
Voilà.
fait effectivement que le courtier, d'abord, a des relations privilégiées avec les banques, a des relations privilégiées avec certains banquiers et donc arrive à obtenir des conditions de financement préférentielles compte tenu des volumes qu'il traite.
Voilà, donc en fait, faut finalement, pour moi, le courtier, c'est un peu aussi comme quand on regarde, par exemple, lorsque ben, je parle dans le cas d'un achat locatif, par exemple, ou quand on regarde le montant de l'assurance en se disant, ah ben là, c'est un peu plus élevé dans cette banque, mais en fait, il ne faut pas faire attention à tout ça parce que l'obtention du crédit, si vous avez bien étudié votre dossier et si c'est vraiment un projet rentable, ça va vous rapporter beaucoup plus d'argent que toutes ces petites choses. Donc en fait, il faut se dire, ben, simplifiez-vous la vie. Et faites-vous entourer par des professionnels, quoi.
Exactement.
Et donc, une
D'accord.
autre question. Alors, ça, c'est notre dernière question où vraiment, elle est revenue tellement de fois que je suis obligée de la poser ici pour que bah, tout le monde comprenne. On nous a demandé des dizaines de fois, est-ce qu'on peut emprunter en étant au chômage?
Ah, alors c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. On pourrait imaginer que certains investisseurs, dans la mesure où il y a du revenu foncier à percevoir dans une opération d'acquisition d'un appartement, par exemple locatif, on pourrait emprunter en étant au chômage. Sauf que, comme j'ai dit, les banques, ce qui les intéresse et leur importe, c'est d'être remboursés. Et quand on a fait une acquisition d'un bien immobilier, ce sont les revenus d'abord qui permettent de rembourser le crédit d'une banque. Donc, s'il n'y a pas de revenus du travail, la banque, ne pourra pas prêter. Mais le conseil qu'on pourrait donner d'ailleurs, c'est à celui qui serait d'ailleurs au chômage, c'est de se former, c'est d'aller suivre des formations pour pouvoir acquérir des compétences et démarrer sur des petites opérations, parce que pour être professionnel de l'immobilier ou investisseur, il n'est pas nécessaire d'avoir, c'est un métier à part entière, et il n'est pas nécessaire d'avoir des formations poussées, mais en tout cas d'avoir les compétences pour mener une opération immobilière dans les meilleures conditions. L'idée, c'est de se former. Voilà.
Pour ne pas perdre son temps et pas être là à attendre. Voilà.
Exactement.
Totalement. Et il ne faut pas oublier, parce que souvent on voit, et puis beaucoup, en tout cas sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on voit beaucoup, on voit donc des gens qui font des opérations tout de suite, des immeubles à 1 million, mais il ne faut pas oublier qu'avant d'en arriver là, en tout cas si vous démarrez de rien et que vous démarrez seul, bah en fait, vous commencez par peut-être une place de parking ou peut-être un studio, mais c'est, voilà, il faut aller, y aller crescendo, et c'est ça qui fait qu'après vous prenez la confiance et que vous pouvez aller plus loin. Mais faut pas imaginer que tout de suite on peut avoir un bien immobilier à 1 ou 2 millions. Ça n'existe pas. Ça existe que dans les films. Ou alors vous avez un associé, voilà, qui vous aide dans l'histoire. Mais si vous êtes seul, c'est pas possible. Donc
non.
Donc voilà, se dire.
Il faut commencer petit. Voilà. Pour limiter les risques et ensuite multiplier les opérations et que ça fasse boule de neige et ensuite.
Et que les banques fassent de plus en plus confiance et voilà.
Exactement. Exactement.
Totalement. Merci beaucoup Fabrice pour toutes ces informations. J'étais ravie de te recevoir sur notre plateau. Merci à nos téléspectateurs d'avoir regardé cette nouvelle émission. Je vous donne rendez-vous le mois prochain où nous allons recevoir sur notre plateau un expert également en investissement immobilier. Nous allons parler à un notaire, à plusieurs mêmes notaires. Vous pouvez nous poser toutes vos questions en téléchargeant l'application Radio Immo sur votre smartphone. Je vous dis à bientôt sur Radio Immo.
Bien investir avec Alison, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli de radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.